Aujourd'hui, on est allé voir des petits rats.
Une victoire de canard.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare.
Regarde les trois petits canards comme ils sautent dans la mare.
Un canard.
Canard, le podcast qui parle d'art et qui vous embouche un coin.
Ouais.
Donc aujourd'hui, on est allé.
Oh, bonjour, c'est pour les chiens. Salut Vicky.
Salut Gabriel, excuse-moi. Alors, du coup, aujourd'hui, on est allé au musée d'Orsay voir l'exposition Degas à l'opéra. Oui. Alors, autant vous prévenir...
Il va y avoir du fight. Mais moi, je reste tranquille.
Mais moi aussi. Mais on n'est pas d'accord.
On ne sait pas pourquoi, mais on s'est juste dit que... Enfin, moi, je sais que j'ai bien aimé.
Et que moi, j'ai pas aimé.
Voilà.
Voilà. Alors, vas-y, Gabriel, et je rebondirai.
Alors... Edgar Degas a environ une exposition au moins à son nom au musée d'Orsay depuis 3 ans, chaque année. C'est un petit peu la tarte à la crème.
Ouais.
Degas, si vous ne voyez pas, il fait principalement, enfin il est surtout connu pour ses tableaux de danseuses, des petites danseuses, justement, des petits rats de l'opéra. Et on a eu, je crois qu'il y a 2 ans, c'était quoi? C'était l'anniversaire de sa mort.
Mmh.
Et donc il y avait une exposition sur, il y avait plein d'expositions Degas, et dont une à Orsay sur lui et Paul Valéry. L'écrivain Paul Valéry, donc voilà, c'était un peu une exposition spécialiste. L'an dernier, ça s'appelait Degas danse dessin, et là cette année, c'est Degas à l'opéra. Donc encore une fois, enfin voilà, encore une fois les ballerines, je m'attendais à une, enfin pas forcément une redite, mais de nouveau un peu à la tarte à la crème. Je m'attendais aussi à des décors, enfin une scénographie hyper ornée, hyper impressionnante, et alors il n'y a eu rien de tout ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. L'exposition, elle retrace à la fois le travail de l'artiste, ce que c'est la vie d'un artiste à la fin du 19e siècle, et donc vraiment ce que c'est de vivre comme un artiste bon, assez reconnu, parce que lui, il a quand même des moyens. Je crois qu'il vient de la petite noblesse de Degas, si je ne me trompe pas. Et il va surtout peindre, au contraire, bah, des gens de la classe ouvrière. Et donc là, on le verra particulièrement des danseuses, et on parlera plus particulièrement du statut des danseuses classiques à l'époque. On a aussi un petit aperçu bah, de toute cette vie bourgeoise, de la vie d'autres artistes que les peintres, de la vie des musiciens, et de ce que c'est, de ce que ça veut dire d'aller à l'opéra à l'époque, de ce que ça veut dire de vivre, d'être une danseuse à l'époque, et des techniques aussi de comment est-ce qu'on travaille en tant qu'artiste dans cette fin de 19e siècle. Voilà.
Voilà.
Est-ce que je commence et tu détruis après ?
Ouais, voilà, je fais les contre-arguments.
Très bien.
Enfin, je peux déjà commencer
okay,
en bah disant
d'accord.
Que...
Première contre-argument, c'est pas moi qui commence, non, mais vas-y, vas-y.
En disant que bah, j'étais comme toi, sur Degas, c'est bon, il y en a marre. Et, alors, le début, j'ai bien aimé.
Ouais.
Voilà. Et c'est après que c'est parti en vrille.
Ok, d'accord, donc quand j'arriverai ou après...
Voilà.
D'accord. Alors, le début... Alors, déjà, on arrive, et la mise en scène est étonnamment sobre. Mais vraiment, c'est des fonds gris pâles. Avec les tableaux sont accrochés, il y a pas de, je sais pas, moi j'attendais vraiment un rideau rouge
ouais.
De l'opéra en arrivant, vraiment
ouais,
la musique.
Ouais, ouais, ça,
alors la musique, il y en aura très peu. Il y a une vidéo à un moment ouais. Avec des chants d'un ténor, si je me souviens bien, et c'est tout. C'est presque peut-être un petit peu décevant, pas décevant, mais pourquoi pas avoir mis des bornes avec des casques pour qu'on puisse entendre l'opéra.
Entendre l'opéra, surtout qu'ils en citent certains.
C'est ça.
Surtout, enfin, c'est ce qu'il disait. Il disait, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que dans l'œuvre de Degas, on ne sait jamais quasiment ce qu'il représente, quel opéra il est en train de représenter. Et il y a seulement un ou deux tableaux où là, vraiment, on sait qu'il représentait tel opéra. Et c'est vrai que là, ça aurait été intéressant de mettre de la musique. Pourtant, moi, je suis pas fan de,
oui, c'est ça.
Du 100% média, on va dire.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout quand c'est un peu gadget. Mais là, ça aurait été plutôt pertinent. Mmh. Et il n'y en avait pas. Bon, pourquoi pas. Mais au moins, on évitait ce principe un peu de la scéno qui vous tape à l'œil et la musique partout et on en sort complètement crevé. Non, au contraire, justement, on arrive des fonds gris pâles et par-dessus des dessins. C'est vraiment un peu les débuts de Degas. Des dessins et des études, donc des copies de tableaux qu'il allait copier en Italie. Parce que dans les années 50, un peu au début de sa carrière, il va faire un voyage en Italie pour copier les maîtres de la Renaissance, comme Giotto, Mantegna, Raphaël. Et c'est, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est que dans cette salle-là, on a ces copies des anciens mis en parallèle de dessins qu'il a fait directement sur des modèles sur nature, enfin soit des ballerines qui s'étirent, c'est souvent ça d'ailleurs, des ballerines qui sont en train de en plein étirement. Et donc on comprend que le dessin est fait sur nature, et pourtant ça reprend un peu les poses qu'il a vues en Italie plus tôt.
Ouais.
C'était vraiment intéressant, assez étonnant aussi. Enfin c'est très chouette de voir son processus créatif, comment est-ce qu'il travaillait. Et c'est toujours beau de voir des dessins. C'est toujours joli.
Alors moi déjà ça commence à partir en cacahuète quand ils nous ont collé un bout de chrono coincé entre deux murs. Et donc moi ça m'énerve, ces chronos qui sont...
Oui mais tu voulais mettre où? Tu devais mettre à l'entrée, du coup ça fait un bouchon et tout le monde s'arrête devant?
Non, t'en mets pas.
Mais là c'était pas mal parce qu'en fait... Alors si! Non, t'en mets pas, je trouve que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on en met de manière automatique et c'est pas toujours pertinent. Ouais. Surtout si c'est pour dire des choses qui vont de toute façon être répétées dans les cartels après. Là en l'occurrence, c'est pas une grande chrono, justement il y a des bouts de chrono comme tu le dis de manière si condescendante, mais... avec des événements qui sont intéressants par rapport à ce qu'on a vu. On voit ces tableaux là, ces copies des anciens Italiens, et après la chrono nous dit bah oui, bah justement en 53 il était en Italie. On explique un peu pourquoi, enfin qu'est-ce qu'il allait faire là-bas.
Ouais.
Je sais pas, je trouve que ça nous remet un peu des choses sur sa vie, surtout que c'est une exposition qui parle vraiment de lui, de sa vie, de son entourage, parce qu'après on va parler de sa famille avec sa sœur et son père qui sont des musiciens, sa sœur elle chante, et qui connaissent des musiciens. Donc aussi, comment est-ce que lui, il se retrouve dans ce milieu de l'opéra, dans ce milieu de la musique, en tant que peintre, et justement, ça nous donne un bon aperçu de la société des artistes de l'époque qui se croisent et s'entrecroisent aussi dans les différents médiums.
Mais après, moi, les premières parties, j'ai trouvé ça très bien.
Premier argument, objection. Non, vas-y.
Mais j'ai pas lu la chrono parce que c'est peut-être un principe, mais ça m'a énervé ces trucs coincés. Parce que j'avais le sentiment, et même si c'était intéressant, c'est toujours un peu calé au chausse-pied quoi. C'est on avait un bout de mur vide, du coup on va mettre la chrono là. Voilà,
souhaite. Je vais pas me battre sur la chrono parce que c'est pas le plus intéressant donc si tu veux. Ensuite. Oui, donc on va voir un peu plus justement cette vie des musiciens avec des très beaux portraits des musiciens qu'il a fait. Un grand portrait, je spoil sur mon œuvre préférée avant la fin, mais c'était vraiment très beau. Un grand portrait d'Eugénie Fiocre. Alors Eugénie Fiocre, c'est une danseuse dont il tombe amoureux, il va avoir une relation avec elle pendant quelques temps. Et il la peint alors qu'elle danse dans un ballet, c'est le ballet qui s'appelle La Source. Et on dirait que c'est une sorte de vision d'un conte russe. On ne dirait pas du tout que c'est une scène d'opéra. Donc ça joue un peu, toute l'expo joue un peu là-dessus, de dire que, comme tu disais, il précise jamais qu'est-ce qu'il est en train de peindre, enfin quasiment jamais. Oui. Donc c'est pas des scènes tirées de l'opéra, c'est soit sa vision un peu fantasmée de l'opéra qu'il en a eu, ou alors c'est vraiment la vie du petit peuple, encore une fois, les musiciens et les danseuses. Donc ça c'est plutôt chouette.
Oui. Après, on présente l'opéra en général, j'ai trouvé ça bien, il y a la belle maquette et tout.
Oui, ils ont pu la sortir parce que le musée d'Orsay a une grande maquette de l'opéra Garnier. Et ils l'ont sorti.
C'est dommage parce qu'il parlait de l'opéra Pelletier aussi, qui était, le prédécesseur de l'opéra Garnier. Et c'est dommage parce qu'il n'y avait rien. Alors peut-être qu'ils n'avaient rien, mais même un dessin, ça aurait été sympathique. Et ce qui était super, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les maquettes des scènes de plusieurs ballets.
Ça c'était super.
Mais ils les ont à Orsay, c'est présenté à côté de la maquette. Mais c'était bien.
Ça fait plaisir de voir, encore une fois, c'est des choses qu'on voit rarement. Ouais.
Et moi, c'est à partir de là où c'est parti.
Où t'as décroché.
Où j'ai décroché, mais complètement. Et d'ailleurs, j'ai pris aucune note.
D'accord. Et voilà, je continue.
Voilà.
Ensuite, on arrive. On arrive, pas dans le vif du sujet, mais dans ce que les gens connaissent le mieux de Degas, c'est ces scènes de danseuses, de répétitions de danseuses. Et donc, il nous explique comment est-ce qu'il en vient à faire ça. En fait, il commence à peindre un peu ses répétitions. Et ça, il a un grand succès, il va devenir connu pour ça. C'est une sorte de travail alimentaire en fait qui fait ça. Il va en peindre en très grand nombre pour pouvoir les vendre, pour pouvoir subsister. Et encore une fois, je trouve que les fonds neutres faisaient qu'on pouvait voir les tableaux avec attention. On pouvait vraiment bien les regarder. Et on comprend bien aussi que Degas, si on ne connaît pas très bien Degas, on peut croire que oh là là, c'est joli, c'est mignon, c'est des petites filles en tutu qui sont en train de danser. Alors que pas du tout. Degas, c'est un petit peu l'équivalent d'Émile Zola en peinture. C'est la fatigue de la classe ouvrière. Là, on voit, c'est un peu des corps adolescents, c'est des filles très jeunes qui s'étirent. On sent qu'elles sont fatiguées quand elles écoutent leur professeur leur expliquer ou leur montrer des pas. C'est des gestes très naturels. Et ça continue où on voit qu'en fait, l'opéra, c'est vraiment l'antichambre du bordel. c'est les petites danseuses qui sont là. Il y a des mecs, des hommes en riches, de la bourgeoisie, qui sont là vraiment pour faire leur marché et qui vont être un peu leurs mécènes. Et ces petites filles, parce que c'est ces petites filles qui ont 13-14 ans, quand elles commencent, ces petits rats d'opéra vont être les maîtresses de ces hommes riches. Et donc là, on a vraiment cet aspect un peu marché à bestiaux, qui est d'autant plus prégnant, parce que donc, Degas, il a fait des huiles et des pastels, donc avec de très belles couleurs pour les tableaux, quand il peint les répétitions avec des tutus très colorés. Mais là, on voit aussi que là, il s'essaye à d'autres techniques, entre autres la je sais plus, c'est de la linogravure ou de la sérigraphie, enfin de la gravure.
Le monotype ?
Ah, c'est du monotype.
Alors, finis d'abord sur le monotype.
Qu'est-ce que c'est le monotype ? Le monotype, c'est un procédé de gravure sur une plaque de verre ou de cuivre. Enfin bon, c'est une plaque qu'on grave, on enduit d'encre et ensuite verre, je crois bien. Ah non, on peint dessus et ensuite on l'applique sur papier. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas en faire plus qu'un ou deux tirages parce que normalement, bah, l'encre s'efface et il n'y a plus rien. Donc ça reste un procédé de gravure mais qu'on ne peut pas non plus reproduire, ça démultiplier à l'infini. Et ça, je trouve que ça introduisait quelque chose d'autre qui est très intéressant dans le travail de Degas, mais surtout dans le travail des artistes à cette époque, bah c'est que le 19e siècle, c'est le siècle de l'industrie, c'est le siècle de la mécanique, et que ça, on n'a pas toujours non plus conscience dans les expositions sur ces artistes-là. Il y a plein de nouvelles techniques qui naissent avec la révolution industrielle. Il y a la photo qui est née en 1939, qu'on a un regain d'intérêt aussi bah justement pour la gravure, pour l'estampe, pour démultiplier les images. Et ça, on voit bien que Degas, il expérimente plein de choses. Enfin, vous verrez, il expérimente aussi dans d'autres formats, plein d'autres techniques. Il fait de la photo, on le verra aussi un petit peu. Et je trouve ça chouette aussi de revenir à ce côté bah, très terre-à-terre en fait, de la création. C'est le matériau. Et donc, il y a toute une partie là-dessus sur tout le laboratoire de Degas, d'expérimentation de Degas, qu'est l'opéra. L'opéra lui donne une sorte de foule de thèmes qu'il va ensuite pouvoir interpréter dans plein de techniques différentes. Et ça, j'ai trouvé très, très bien. Et pour finir, on a une dernière partie avec, qui s'appelle Orgie de couleurs. Et clairement, là, c'est vraiment juste la partie plaisir des yeux, où c'est des tableaux qu'il fait un petit peu à la fin de sa vie. Encore une fois, des danseuses qui s'étirent, qui s'échauffent. Et il n'y a quasiment pas de texte à côté, et c'est tant mieux parce que ça ne sert à rien. C'est juste de très beaux tableaux où on se pose devant et il y a de très belles couleurs, et c'est vraiment très chouette. Voilà.
Alors. Du coup,
tu as tort parce que...
Non, c'est pas que t'as
tort. Non, pas du tout.
Mais en fait, c'est super intéressant que tu dises ça, parce que moi, ça m'a permis de prendre une autre dimension de l'exposition, parce que ce n'est absolument pas expliqué dans l'expo. Et toi, tu le sais, parce que t'as bossé dessus.
C'est vrai.
Mais le monotype, on en parle, donc il y en a 50 hein, des monotypes au moins. Pas une fois, il y a une explication sur ce qu'est un monotype. Pas une seule fois. C'est monotype, point. Bah ouais, mais du coup... à partir de la quatrième salle, il y a majorité de monotypes. Bah tu te dis, à un moment, faut expliquer aux gens, parce que bah, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. Dans l'expo, c'est pas dit. Et je trouve que du coup, on nous balance ces trucs-là, et c'est vrai que le monotype, bah si tu réfléchis pas que c'est un processus, on va dire, d'expérimentation... ça manque un peu de punch, hein, le monotype. Hein. En général, c'est noir et blanc, et puis c'est un peu flou quand on en a fait deux tirages, et puis voilà. Je trouve que ça manque un peu d'élan, quoi. Et du coup, bah, moi, j'ai trouvé que l'expo, elle retombait comme un soufflet. Parce que, bah, y a que des monotypes. On a toujours deux, trois petites danseuses. Ce que t'as dit sur antichambre de la prostitution, tout ça, oui, mais il y a quand même surtout des monotypes. Et j'ai trouvé que ça, sans explication, c'était trop brut, en fait.
Et c'est fort possible que j'ai pas lu avec attention les cartels, justement, parce que je le savais déjà.
Voilà, et moi je les ai lus, parce que bah, du coup, j'étais là, mais attends, monotype. Pourtant, je fais des études d'histoire de l'art, je devrais à peu près savoir ce que c'est. Et j'ai trouvé que c'était pas expliqué. Et du coup, bah, la dernière partie, où encore une fois, orgie de couleurs, moi, j'ai pas été emballée, parce que...
Mais c'est vrai que pour moi, ça faisait en fait la dernière partie où on peut se reposer et enfin juste apprécier les œuvres telles qu'elles sont.
Ouais.
Pour toi, ça faisait la troisième partie, on n'a pas d'explication et bon, c'est sympa de nous
larguer. Et puis franchement, j'avais un peu l'impression que c'était bon, bah allez, on entasse ce qui nous reste là parce qu'on a calé ce qu'on voulait mettre avant et puis bah, il nous restait tous ces deux gars dans les tiroirs, du coup, on va tous les mettre là. Et c'est un peu ça, souvent, les dernières parties. Et des fois, c'est fait avec plus ou moins de finesse. Et là, bah, moi, qui en avais déjà marre de ces monotypes, ils m'en remettent encore. J'ai pas aimé. Et c'est pour ça que, du coup, je garde un mauvais...
Oui, j'entends bien.
Un mauvais point de vue sur cette expo. Après, on va dire que... Niveau installation des œuvres, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est très bien fait, c'est très sobre, on profite des œuvres et tout ça. Mais je trouve qu'il y a un manque de fond. Ce qui est drôle, parce que c'est quand même une expo qui, au départ, est assez pointue.
Bah, surtout qu'il en manquait pas grand-chose, quoi, justement, non, pour avoir ce fond. Alors que moi, au contraire, justement, je trouvais que c'était une expo intelligemment faite, mais c'est fort possible que j'ai projeté tout ce que je savais déjà. Et...
Voilà.
Et oui.
C'est pas pour les novices, quoi.
Ce qui est fort dommage, parce que... Il y a des choses vraiment très très belles. Mm. Les dessins du début sont très beaux.
Ouais.
Les tableaux du milieu sont très beaux. Et les tableaux de la fin, bon après on aime ou pas la fin avec les couleurs, ça c'est quelque chose, mais c'est... Et moi j'aime beaucoup en plus la gravure et le monotype. Ça encore une fois c'est plus une question de goût. Moi je trouve qu'au contraire le monotype et la gravure ça a justement un côté un peu brouillon, un peu baveux, qui n'a pas un dessin, qui n'a pas une peinture, qui est justement beaucoup plus vivant. Mais ça, j'entends tout à fait qu'il y a des choses qui touchent des gens et pas d'autres. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus... dommage si en effet cette grosse partie, parce que c'est pas vraiment une partie technique, en plus ça vient s'entrecroiser, ça s'entrecroise de d'autres thèmes, donc c'est quand même assez important. Et ça c'est assez dommage. Est-ce que t'avais une œuvre préférée?
C'est la même que t'as spoilé tout à l'heure. Eugénie Fiocre,
ouais c'est ça,
à la source, dans la source, c'est magnifique. Franchement, c'est à couper le souffle.
Ouais.
Franchement, et puis c'est subtil. Enfin, c'est vraiment c'est.
Et c'est assez mystérieux en
ouais.
plus.
Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment et je l'avais jamais vu ce tableau d'ailleurs.
Je crois pas, jamais en vrai. Et c'est assez mystérieux parce que justement comme je disais, c'est pas une scène de l'opéra de la source. Et j'ai lu après coup, alors c'est peut-être dans le cartel, mais que en fait il l'aurait peint aussi une scène comme si elle se trempait les pieds dans l'eau après parce qu'elle était fatiguée.
Ouais.
Mais bon, ça colle pas complètement non plus parce qu'elle est encore en costume de scène avec un cheval à côté, on sait pas trop ce qu'il fait là. Mais il y a quand même ces deux petits chaussons roses qui sont posés par terre à côté, donc on comprend qu'on n'est pas juste dans la scène mythique. Enfin, c'est beau et intriguant.
C'est très très beau, ouais.
Alors, les infos pratiques. Encore une fois, c'est pas moi qui vais les faire parce que c'est pas moi qui ai cherché.
Alors, les infos pratiques. Donc, le musée d'Orsay est ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h avec une nocturne le jeudi à 21h45. Donc, il y a en plus l'exposition finie le 19 janvier. Et donc, si vous voulez vraiment pas la rater, le musée d'Orsay s'en assure avec deux nocturnes exceptionnelles le samedi 18 et le dimanche 19 janvier de 18h15 à 22h. Donc c'est sympa si t'es en retard. Ensuite, pour les tarifs, donc c'est 14€ en plein tarif, réduit 11€ et gratuit pour les 18-25 issus de l'Union Européenne.
Même l'expo?
Oui, c'est un billet,
okay.
Un billet complet. Par contre, alors, il y a ce qu'on appelle la carte blanche jeune. Donc la carte blanche jeune, c'est pour les 18-35 ans. Et donc, cette carte blanche donc, vous donne un accès illimité pendant un an au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie. Et donc, il existe une version solo à 25€ et une version duo à 40€. Donc, si vous faites deux expos à deux, la carte, elle est remboursée. Et puis, si vous voulez faire un tour dans le musée, franchement, ça vaut le coup.
Et surtout qu'en plus, la carte, elle est à deux, mais c'est pour deux, mais c'est au nom d'une seule personne. Mais après, t'invites qui tu veux à venir avec toi.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est pas comme les cartes... Oui, voilà. Si, c'est comme les cartes du UGC, en fait. C'est ça. Alors, allez voir cette expo. Moi, je dis oui. Enfin, allez-y, oui. Allez-y, surtout si vous aimez un peu Degas, mais que vous avez l'impression d'avoir plein le pif. Moi, je trouve ça quand même vraiment chouette. Si vous aimez l'art du 19e siècle, évidemment, de toute façon, c'est Orsay. Moi, je trouve que c'est quand même très beau. C'est l'occasion de voir des choses très très belles et assez différentes, dans plein de techniques différentes. Et d'avoir vraiment une belle leçon d'histoire sur la vie pas très rose de la fin du 19e siècle, sous les ors de l'opéra et un peu les jolis petits tutus roses, en fait, c'était un peu dégueulasse. Bon, allez-y, je sais pas. Tu disais quoi, toi? Danse? la série Danse quand t'étais petite.
Ah oui.
Si vous aimez Danse ou No Stress et Black Swan, je sais pas, j'y connais rien. Je te laisse le faire si vous aimez.
Oui, non, c'est pas mal. Okay. Danse ou No Stress, Black Swan. Non, mais allez-y en fait si vous avez écouté ce podcast, parce que du coup, Gabriel vous a donné un contexte. Un contexte qui vous permettra de comprendre mieux l'expo.
Voilà.
Voilà. Donc merci Gabriel. Voilà.
Mais de rien.
Et ben, on vous dit à la semaine prochaine.
Ouais, alors retrouvez-nous sur iTunes, sur Spotify, sur les bonnes applis de podcast, bientôt sur YouTube, probablement. On c'est peut-être déjà le cas, on ne sait pas trop au moment où on enregistre ce podcast. Et ben, si vous voulez nous laisser un petit commentaire sur Instagram ou sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Et ben, à bientôt.
C'est Canard avec un T, le podcast.
Ah oui, tout attaché.
Salut Vicky.
Salut Gabriel.